Acteurs, initiatives locales, culture, mémoire, patrimoine. Tout ce qui fait l'actualité est dans votre magazine sur Radio Plus.
Et à présent sur Radio Plus, on va s'intéresser à une association, l'association SC2S, Service Civique Solidarité Senior, qui intervient pour favoriser la solidarité et notamment la solidarité intergénérationnelle. Et justement, le lundi 29 avril prochain, c'est la journée européenne de la solidarité intergénérationnelle. Et à cette occasion, Service Civique Solidarité Senior Hauts-de-France, en partenariat avec la ville de Arques, offrira un événement en solidarité pour les seniors sinistrés du territoire à la salle Alfred André de Arques. Pour parler de cet événement, mais aussi pour parler de cette structure, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Souillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de développement au sein de Service Civique Solidarité Senior Hauts-de-France et vous avez d'ailleurs plus spécifiquement en charge le bassin minier. Alors quelques mots tout d'abord pour nous présenter cette structure.
Oui, tout à fait. Alors Service Civique Solidarité Senior, on est une grande association et je dirais même une grande mobilisation nationale, en plus d'être une association, puisqu'on va promouvoir un service civique de qualité. Donc on va promouvoir la jeunesse à travers l'engagement que les jeunes peuvent effectuer. Donc c'est un engagement qui peut se réaliser une fois dans la vie d'un jeune qui est âgé de 16 à 25 ans et jusque 30 ans pour les jeunes qui détiennent une reconnaissance travailleur handicapé. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les structures du grand âge sur le territoire du bassin minier afin de leur mettre à disposition des jeunes volontaires en service civique, et ce, dans un seul but, lutter contre l'isolement des seniors.
Alors, il y a cette lutte contre l'isolement et tout ce rôle des services civiques sur lequel on va revenir, mais on parle aussi de solidarité. Et justement, le 29 avril prochain, à l'occasion de cette journée européenne de la solidarité intergénérationnelle, un événement est co-organisé par votre association. Mais tout d'abord, parlons de cette journée européenne de la solidarité intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée ?
Donc le 29 avril, dans le cadre de cette journée européenne de solidarité intergénérationnelle, nous avons mis en place une après-midi conviviale destinée aux sinistrés du territoire audomarois, parce que nous savons comme la période qu'ils ont pu vivre a été difficile, donc nous avons décidé de leur venir en soutien le temps d'une après-midi. Donc cet après-midi aura lieu à la salle Alfred André de Arques, donc en partenariat, comme vous l'avez indiqué, avec le CCAS de la ville d'Arques. Il y aura tout d'abord un accueil qui leur sera réalisé, donc de 13h30 à 14h. Et ensuite, il y aura une représentation théâtrale effectuée par la compagnie La Belle Histoire, suivie d'un goûter, d'échanges et partages avec les jeunes volontaires.
Alors, des échanges, des partages et puis ce spectacle, on l'imagine pour aussi oublier ce traumatisme qui a impacté tous les habitants de l'Audomarois. Est-ce que justement les seniors ont peut-être été plus impactés que les autres habitants par les inondations ?
Alors, je pense que tout le monde a pu être impacté à son niveau, peu importe l'âge. Mais en effet, les seniors ont peut-être un peu plus de difficultés à prendre du recul sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Je pense qu'ils ont peut-être un peu plus besoin de se sentir valorisés, de bénéficier d'échanges, d'écoutes, de discussions aussi. Je pense que ça peut faire du bien de parler aussi d'autres choses et en effet d'essayer de tourner la page et d'aller de l'avant.
Et pour aller de l'avant, il y a donc ce spectacle et cette journée intergénérationnelle. Alors, à qui s'adresse-t-elle ? Qui peut participer ? Est-ce qu'il y a un public déjà ciblé, identifié ?
Oui, donc cette journée est destinée à toutes les personnes du territoire audomarois, qu'elles aient été sinistrées ou non, bien évidemment, aux personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, du coup.
Alors, d'un point de vue purement pratique, si l'on souhaite participer à cette journée, comment fait-on ?
Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, du coup, vous pouvez vous tourner vers la page Facebook Radio Plus Hauts-de-France, où là, vous aurez toutes les informations avec le petit coupon réponse qui est juste en bas de la petite affiche. Donc, il y a un QR code pour vous inscrire sur cette affiche qui va vous rediriger vers un formulaire. Et sinon, vous avez d'autres possibilités. Effectuer un dépôt dans l'urne qui se situe à la mairie d'Arques, au niveau du centre communal d'action sociale, chez Community aussi, association association qui se situe à Arques. Sinon, vous pouvez également téléphoner au 06 58 76 04 30 ou par mail à l'adresse o-2-france@sc-solidaritésenior.fr.
Voilà, vous avez évidemment toutes les infos, vous qui nous écoutez, et puis on relaie évidemment toutes ces infos sur la page Facebook Radio Plus de France. On vous rappelle, hein, le 29 avril, c'est un lundi, à partir de 13h30, donc une représentation théâtrale, des discussions, un goûter pour susciter des réactions sur les attentes des personnes âgées, le regard des jeunes envers les seniors et réciproquement. Pour participer à cette action, est-ce qu'il y a un tarif ?
Ah, pas du tout, c'est une action qui est vraiment entièrement gratuite. Le but, c'est vraiment de passer du bon temps et il n'y a aucun but lucratif dans cette action.
Anaïs Souillard, chargée de développement au sein de l'association Service Civique Solidarité Senior, est notre invitée. Et nous allons à présent parler de l'action de cette structure au quotidien. Votre mission, on l'a dit, c'est proposer des services civiques à des associations en demande, des associations évidemment qui et des structures qui interviennent dans le cadre, dans le champ de la solidarité, et notamment de la solidarité envers les personnes seniors. Alors, quels sont un petit les structures avec lesquelles vous travaillez ?
Alors, je suis en contact au quotidien avec des EHPAD, avec des résidences autonomie, des foyers logements, mais aussi des centres communaux d'action sociale. Il peut y avoir également des mairies, parfois, qui font appel à nos services. C'est aussi des associations qui bénéficient, du coup, des jeunes volontaires en service civique.
Alors, des jeunes volontaires qui sont régulièrement sollicités, puisque les recrutements sont réguliers au sein de votre structure.
Oui, tout à fait. Donc, on recrute toute l'année des jeunes volontaires qui détiennent de la motivation. Le seul critère, c'est vraiment de la motivation et les savoir-être. Il n'y a pas de prérequis ou de diplôme en particulier pour effectuer un service civique. Le principal, c'est d'être intéressé envers la mission et envers le public senior.
Et on le précise, hein, autant cet événement se passe à Arques, cet événement du 29 avril, autant votre structure recrute sur l'ensemble du bassin minier notamment, et même sur l'ensemble de la région.
Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une grande mobilisation nationale. Donc, en plus d'être sur les Hauts-de-France, on est en effet on rayonne sur tout le pays. Mais en effet, dans les Hauts-de-France, moi, du coup, je suis en charge du territoire du bassin minier. Donc, Lens, Liévin, Béthune, Bruay, Nain-Carvin et les alentours.
Alors, on l'a dit, pas de prérequis en termes de diplôme. Le seul prérequis, finalement, c'est l'âge, 16 à 25 ans, 30 ans en cas de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Du côté des savoir-être, on imagine que travailler avec un public senior, c'est un public qui a ses spécificités, qui a ses besoins, indépendamment de la question des soins. L'approche humaine, elle est évidemment très importante. Alors, quelle qualité on va plutôt privilégier ?
En effet, l'approche humaine, elle va vraiment être primordiale dans le service civique. On va vraiment attendre à ce que les jeunes aient une certaine patience, mais aussi le sens de l'écoute. C'est très important puisque on va leur demander de prendre le temps avec les personnes âgées, ce que parfois les structures n'ont pas forcément le temps de faire à leur plus grand détriment, je pense. Donc en effet, le principal, c'est d'être patient, d'être à l'écoute et aussi d'être créatif, je pense, pour pouvoir concevoir des projets, proposer des choses et aussi détenir une certaine autonomie, je pense.
Est-ce que ces jeunes qui postulent ont l'ambition à terme de se réorienter justement dans ces métiers du social et de l'humain ?
Oui, en effet, il y en a et c'est l'un de nos objectifs intermédiaires, c'est de promouvoir les métiers du grand âge à travers cette jeunesse engagée, puisqu'en effet, nous réalisons tous les ans une mesure d'impact afin d'effectuer un retour quantitatif et qualitatif des actions. Et on se rend compte que la jeunesse change le regard qu'elle peut avoir sur les personnes âgées. Et le but, c'est en effet de pouvoir leur faire découvrir un nouveau monde professionnel qui parfois est en pénurie, notamment sur les métiers du domicile. Donc le but, c'est de pouvoir les orienter vers ces métiers-là également.
Vous parliez de regard que portent les jeunes sur les seniors. Quel est ce regard, justement, avant de s'engager dans le service civique ?
Bah, je dirais que c'est un regard qui est un peu différent de la réalité. Les jeunes vont parfois s'attendre à un monde qui est tout beau, tout rose, et où parfois les personnes âgées sont toujours à l'écoute, alors que ce n'est pas toujours le cas. En effet, c'est un public qui a ses spécificités, qui détient parfois certaines pathologies. Donc il faut pouvoir aussi avoir une certaine capacité d'adaptation, puisqu'en effet, quand on est au contact d'un public qui a parfois des pathologies, type pathologie d'Alzheimer. Il faut pouvoir s'adapter et voilà. Et donc, nous formons les jeunes à travers un socle de formation qui va être réalisé durant leur service civique. Donc, c'est un socle de formation qui est notre plus-value, puisque grâce à ce socle, les jeunes vont pouvoir interagir au mieux avec ce public pendant leur mission.
Ces missions, justement, en termes de durée d'engagement, on est sur un volume de combien ?
Alors, en général, on est sur des missions qui durent 6 à 8 mois. Et on est sur du 24 à 28 heures par semaine en moyenne.
Alors, n'hésitez pas, évidemment, hein, si vous avez envie d'aller découvrir ces métiers de l'humain, ces métiers de la solidarité. C'est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, et également en reconversion professionnelle, parce que ça peut être aussi une réorientation d'aller découvrir ces métiers. Et si, justement, on souhaite postuler pour être recruté en mission de service civique au sein de votre association, comment fait-on ?
Alors, vous pouvez directement me contacter, donc au 06 62 51 98 72 ou sur ma page Facebook professionnelle, donc Anaïs Souillard Pro, ou sinon vous pouvez également consulter le site de l'agence du service civique ou le Facebook Service Civique Solidarité Senior Hauts-de-France, où toutes nos offres sont publiées.
Alors justement, ça recrute toute l'année. Est-ce que sur cette période d'avril-mai, il y a des recrutements ouverts ? Est-ce qu'on peut en savoir plus ?
Oui, en ce moment, en effet, il y a énormément de besoins sur le territoire du bassin minier. Donc là, en ce moment, je recrute 2 volontaires pour un EHPAD sur Verquin, 2 volontaires également pour un EHPAD sur Méricourt. Nous avons également un besoin qui va arriver très prochainement pour un jeune au niveau de la résidence autonomie qui se situe à Vingles. Je vais avoir également, courant le mois de septembre, 2 volontaires pour l'EHPAD de Arne. Voilà, je ne peux pas tous les citer, mais en effet, les besoins sont très présents et nous recherchons des jeunes qui souhaitent s'engager et qui montrent de l'intérêt envers les missions.
Ouais, effectivement, alors n'hésitez pas à postuler, à envoyer votre CV, votre lettre de motivation à SC Solidarité Senior, SC2S, que l'on vous présentait dans cette interview en compagnie d'Anaïs Souillard, chargée de développement au sein de SC2S, Service Civique Solidarité Senior en Hauts-de-France.
Radio Plus.
Radio Plus.
Tous les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio.
Et dans la suite de ce numéro de Mardi Magazine, on parle de cinéma avec le festival Ciné-Comédie, 8e du nom, qui arrive pour la 2e année consécutive sur le territoire de Lens-Liévin. Ce sera du 30 mai au 3 juin prochain. Et parmi la programmation de cette 8e édition, on va pouvoir retrouver 2 soirées avant-première avec en ouverture La Famille Hendrix, le dernier film avec Danny Boone à l'affiche qui sortira à la fin du mois de juin, et La Petite Vadrouille, le dernier film de Bruno Podalides. On retrouvera également les classiques de la comédie comme des films des Charlots, La Grande Java, ou encore le 60e anniversaire du film Le Gendarme de Saint-Tropez, ou encore celui de Fantomas. Ce sera également l'anniversaire d'Un Indien dans la ville, avec la présence de Patrick Timsit, déjà présent l'année dernière, ou encore une séance en plein air avec le film The Blues Brothers. Sur 5 communes du territoire de Lens-Liévin, le festival Ciné-Comédie vous donne rendez-vous donc du 30 mai au 3 juin, et on en apprend bien plus sur ce festival avec son organisateur.
Alors, je suis Jérémy Humbert, donc je suis le fondateur de Ciné-Comédie, donc du site aussi cinécomédie.com, et le directeur artistique du festival Ciné-Comédie, dont c'est la 8e édition cette année à Lens-Liévin.
Oui, parce qu'il y a ce festival et puis il y a l'entité Ciné-Comédie. Comment est né justement ce projet autour du cinéma et de ces comédies ?
Avec Yann Marché, avec qui je co-dirige le festival, on a eu l'idée au début des années 2000 de faire un documentaire sur Pierre Richard. On a réussi à le faire, et avec la complicité de tous les gens qui ont travaillé autour de lui et de la Gaumont. Et de ce documentaire est née une passion pour la comédie qui nous a plus quittés. Et on a décidé ensuite de faire d'autres choses liées à la comédie, et notamment des bonus pour les DVD de comédie, des films de Jean-Marie Poiret, des films d'Yves Robert, de Francis Weber, et etc. Donc c'est né de cette envie de poursuivre sur la comédie. Et puis un jour, on s'est dit, mais en fait, il n'y a rien sur la comédie sur Internet. Donc on s'est dit, on n'a qu'à le faire, nous, puisque il n'y a pas de site de comédie. Donc j'ai décidé de lancer cinécomédie.com, on va bientôt fêter les 10e anniversaire, puisque c'était le 1er mai 2014. Donc, 1er mai 2024, on fêtera les 10 ans de Ciné-Comédie. Et donc, l'idée de ce site, au départ, c'est de traiter de l'actualité de la comédie, donc des films qui sortent, etc., mais aussi d'avoir des dossiers sur des classiques de la comédie, des interviews aussi, alors des interviews filmées, et puis des interviews écrites d'artistes de comédie. Et ensuite, quelques années après la création, donc 3 ans plus tard, on s'est dit, mais finalement, tous ces gens qu'on rencontre, comme Michel Galabru, Pascal Thomas, Pierre Richard et tout ça, pourquoi ne pas le... Parce que là, on les garde un peu pour nous, puisqu'on les interviewe, on les met en ligne sur les réseaux. Et puis ensuite, voilà, les gens après ne les rencontrent pas. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un festival où le public pourrait rencontrer ces légendes de la comédie. Donc de faire partager, notre idée c'était de faire partager au plus grand nombre notre passion pour la comédie et de rendre accessible toutes ces légendes de la comédie au public pour de vrai, quoi, qui viennent les voir. Et c'était aussi une manière de redorer le blason de ce genre de la comédie qui est souvent un peu méprisée par une certaine intelligentsia, mais que le public adore. Et nous, on a trouvé ce positionnement, c'est de se consacrer aux comédies qualitatives et à la fois populaires et élégantes, parce qu'on pense que la comédie peut être un bon vecteur, déjà pour rire, mais aussi pour réfléchir sur la société. Donc une des missions qu'on s'est fixée ensuite quand on a lancé le festival, c'était justement la transmission à toutes les nouvelles générations de spectateurs, donc les enfants en l'occurrence, puisqu'il y a beaucoup de films de comédie qui ne sont plus diffusés sur les circuits habituels, c'est-à-dire sur les grandes télévisions. Alors c'est pas sur YouTube que les enfants regardent ces films-là. Donc on s'est dit le meilleur moyen pour retrouver cette complicité et transmettre le patrimoine de la comédie à ces nouvelles générations, c'est de créer un festival, d'avoir des séances jeunes publics pendant lesquelles les parents peuvent amener leurs enfants et leur faire découvrir sur grand écran, de leur faire vivre l'expérience d'une séance de cinéma où tout le monde rit ensemble à l'unisson. Voilà, c'était ça un peu le but. C'est cette transmission. Donc on s'est finalement fixé cette mission un peu malgré nous. C'était pas prévu à la base, mais voilà.
Et un festival qui, d'année en année, évolue. Là, c'est la 8e édition qui aura lieu donc, du 30 mai au 3 juin. De nouveau sur le territoire de l'Anciévin. Il y avait eu une première incursion sur ce territoire l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir cette année ?
Ce qui nous a donné envie de revenir à l'Anciévin, c'est qu'on avait fait cette première édition sur 3 jours, donc, qui avait été un succès. Il y avait un tel engouement à la fois des organisateurs locaux, des élus et également du public qui est venu en masse au festival, qu'on s'est dit, il y a vraiment, les gens ici ne sont pas blasés comme dans d'autres lieux, et donc il y a un désir pour les gens, les spectateurs du bassin minier, qu'on les fasse rire tout simplement, et puis de venir se réunir dans des salles, rencontrer leurs idoles, et donc on s'est dit il faut qu'on continue, parce que c'est trop beau en fait de faire ça, de pouvoir proposer au public ces moments de bonheur qui leur font oublier leurs soucis du quotidien. C'est quand même génial. Ils viennent, ils voient Jean-Marie Poiret à l'issue de la projection des visiteurs. Ils peuvent le rencontrer, lui faire signer des photos, etc. Ils ont pu rencontrer Henri Guibé aussi. On avait fait les 50 ans de Rabbi Jacob avec un flash mob. Ça avait été formidable. Donc on a eu envie. Et d'ailleurs, tous les élus et les représentants locaux de l'agglomération de l'Anciévin étaient vraiment avaient envie de continuer cette aventure.
Alors ce festival, il apporte cette année son lot de nouveautés. La première, ça va être le village du festival. Qu'est-ce qu'on va y retrouver sur ce nouveau lieu qui sera implanté à Lens ?
L'idée, c'est d'avoir un lieu justement où on peut se retrouver déjà pour se renseigner, puisque ça sera un point d'accueil pour le public, pour savoir ce qui s'y passe, les heures des séances, la programmation, un lieu d'échange avec notamment des séances de dédicaces, notamment les Charlots qui viendront dédicacer, des animations musicales, une exposition. Voilà, tout n'a pas encore été calé à 100%, mais l'idée, c'est d'avoir un lieu central où les gens qui viennent au festival peuvent trouver de l'information, s'amuser. Il y aura des jeux également, il y aura pas mal d'animations sur place que vous pourrez découvrir Voilà, et qu'on découvrira nous aussi le au début du festival.
Autre nouveauté de cette édition 2024, c'est cette compétition de court-métrage. Qu'est-ce qui a été justement la genèse de mettre en place une compétition dans ce festival de cinéma ?
On n'a jamais voulu faire de compétition de long-métrage parce qu'il n'y a pas assez, selon nous, de bonnes comédies qui sortent chaque année. En revanche, le fait de faire une compétition de court-métrage, ça nous permet potentiellement de participer à l'émergence de nouveaux talents de la comédie. C'est-à-dire d'essayer de repérer les gens qui seront demain des grands cinéastes de comédie. Et on s'est dit que c'était plutôt une bonne formule. Et ça permet aussi d'avoir un échange, de créer un jury aussi qui vient pendant le festival et qui va débattre pour savoir quel film aura le grand prix, quel film aura le prix du jury. Et puis le public pourra voter parce qu'il y aura également un prix du public. Et la présidente du jury, donc je peux déjà vous l'annoncer, puisque ce sera Mathilde Amé, voilà, qui sera présidente du jury.
Alors vous nous expliquiez tout à l'heure que la comédie avait le genre de la comédie avait ses détracteurs. C'est aussi un genre qui marche bien dans les salles et qui y a parfois un déséquilibre entre la fréquentation des salles de cinéma et la critique cinématographique. Vous parliez de comédie de qualité, de comédie qui peut être élégante aussi dans la présentation de ce festival. Selon vous, du coup, c'est quoi une bonne comédie ?
Une bonne comédie, c'est surtout une comédie qui prend pas le public pour des idiots. C'est-à-dire qui joue sur l'intelligence du spectateur, qui ne lui donne pas tout d'un seul coup, notamment qui ne fait pas surjouer ses comédiens, par exemple. Ça, c'est la grande leçon de Francis Weber. C'est si tu joues comique, c'est une redondance. Il faut jouer la situation le plus honnêtement possible, le plus droit et normal possible. C'est à la situation d'être drôle, c'est pas au comédien d'être drôle. Et le comédien est drôle si la situation est drôle. Donc c'est pour ça que la bonne comédie, c'est une comédie qui va essayer justement d'avoir déjà un bon scénario, parce que quand même, il faut un bon scénario à la base. J'allais oublier l'essentiel. En plus, on défend nous beaucoup les scénaristes. C'est d'avoir un très bon scénario bien solide qui n'est pas que anecdotique, mais où il y a toujours une profondeur. C'est-à-dire finalement, là où la comédie est plus difficile à réaliser, c'est que c'est une question de rythme et c'est très difficile pour les cinéastes de faire une comédie. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a moins de bonnes comédies. Il est plus facile de faire pleurer, par exemple. Hein. On met une femme qui a perdu son enfant, le public va verser des larmes. Tandis que la comédie, c'est des ressorts beaucoup plus complexes. Donc faire une bonne comédie, pour moi, c'est tout ça, en fait.
Cet argumentaire-là, c'est un argumentaire qu'on pourrait retrouver dans le film qui sera présenté en soirée d'ouverture, La famille Hendrix de Laurence Arnay avec Danny Boone. C'est finalement un petit peu tous ces ressorts-là, un scénario subtil, des acteurs qui n'en font pas trop.
Oui, La famille Hendrix, on l'a choisi en ouverture parce que pour nous, c'est un film qui, alors je vais le dire vulgairement, mais qui coche toutes les cases. Mais c'est dans ma bouche, c'est un vrai compliment. C'est-à-dire, c'est un film qui prend les spectateurs pour des gens intelligents. On fait rire avec des choses profondes et on n'est pas dans la blague facile. Et chaque acteur joue de façon très sobre, très intelligente, n'en fait pas des tonnes. Les rapports sont très justes, très subtils entre les parents, les enfants, cette famille recomposée. Et puis, c'est très bien filmé également. C'est un film qui est très beau visuellement, avec des musiques formidables, puisque c'est un film aussi musical. On voit sur l'affiche Danny Boone qui joue de la guitare, et c'est ça. Il se retrouve autour de la musique. Donc, c'est un très beau symbole en plus, parce qu'on adore la musique, nous. Enfin, on pense que musique et cinéma sont liés. Et donc, ça, c'est vraiment le film idéal pour nous, pour bien lancer le festival.
Alors, il y aura une autre avant-première, c'est le dernier film de Bruno Podalides.
Oui, Bruno Podalides qui nous a habitués depuis des années à faire des films plutôt légers. Et là il est dans la juste lignée de ses précédents films. Je dirais plutôt des films d'il y a quelques années, comme Un avion, par exemple, ou Liberté Oléron. C'est une déambulation, c'est aussi un road movie, mais sur un canal. Ça se passe sur une péniche. On retrouve les personnages habituels de l'univers de Podalides. C'est son frère, Denis Podalides. Et là, pour la première fois, dans l'univers de Podalides, on a Daniel Auteuil, qui n'avait jamais tourné avec sous sa direction, qui est formidable. Sandrine Kiberlin également. Donc voilà, c'est tout ce petit monde. C'est un film ensoleillé. Voilà, c'est un film solaire qui on se sent bien. Voilà. Donc on a décidé de, voilà, de le diffuser, puisque c'est pareil, on essaye de rendre les gens heureux. Donc c'est un film qui rend heureux, avec toujours ces petites, les, comme dans tous les films de Podalydès, des petits tracas entre les personnages, des petites mesquineries, des petits mensonges, mais très agréable. Voilà.
Ces deux avant-premières, c'est aussi une marque de confiance de la part des distributeurs et des producteurs de ces films. C'est important, j'imagine, dans le développement, dans la notoriété du festival.
Bah nous, on est en contact avec tous les distributeurs tout au long de l'année, donc c'est vrai que c'est important d'avoir leur confiance. On est content quand ils peuvent venir au festival pour se rendre compte de l'impact sur le public. Donc c'est vrai que là, on a établi maintenant avec certains distributeurs des relations de confiance, bah notamment avec la Gaumont, avec UGC, et puis avec d'autres comme Apollo, qu'on n'a pas de film cette année parce qu'ils n'ont pas de comédie, mais il y en aura sans doute l'année prochaine. Et voilà, on aime bien justement établir ce lien de avec les distributeurs. Ouais.
D'ailleurs, vous décernez un label ciné-comédie. Le film de Danny Boone l'a obtenu.
Oui, c'est très important pour nous. C'est le label ciné-comédie. C'est un label coup de cœur qu'on a lancé en 2019, puisqu'on voulait distinguer, en fait, par ce label, les films qui, pour nous, sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire qui ont une exigence artistique, notamment en termes d'écriture, de scénario, de dialogue, puisque pour le public, ce n'est pas évident de s'y retrouver. Il y a tellement de films qui sortent chaque semaine. Il y a beaucoup de comédies assez médiocre. Donc nous, l'idée, c'était avec ce label, c'est de dire voilà, on met le tampon sur les films qui nous semblent intéressants. Alors les films plaisent pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, il nous semble intéressant d'aller les voir parce qu'ils apportent quelque chose artistiquement. Et surtout, ils prennent pas les gens pour des idiots. C'est des films souvent qui ont un vrai intérêt, alors qui peuvent être des intérêts très divers, hein, selon les films, mais en tout cas, qui méritent qu'on aille les voir. Et ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est que les distributeurs, justement, prennent en compte ce label de plus en plus, qui se disent, bah attendez, si le film a le label ciné-comédie, ça sent la qualité. Ça, c'est notre ambition. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera un jour? On l'espère, mais c'est jamais gagné d'avance.
Alors, outre ces avant-premières, il y a évidemment la programmation habituelle, j'allais dire, du festival. Cette année, des films cultes encore, des films qui fêtent aussi leur anniversaire et une grande thématique, sport et comédie. Expliquez-nous un petit peu tout ce qu'on va retrouver.
Ouais, dans la thématique sport et comédie, parce que c'est l'année des Jeux Olympiques, forcément. Donc on s'est dit, bah il faut qu'on fasse quelque chose, et notamment avec les Charlots, puisque les Fous du Stade, pour nous, c'était la comédie qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de Jeux Olympiques. Film de Claude Zidi avec les Charlots, 1972. Voilà, ils sont en plein succès avec les Bidas en folie, et là, d'un seul coup, ils font les Fous du Stade. C'est burlesque, ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents, ça vieillit pas dans ce que ça cherche à être, c'est-à-dire un film qui fait rire, mais de façon presque enfantine. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif du tout, c'est très positif. Donc il y aura également La Grande Java, un film de Philippe Clerc avec les Charlots, qui est leur tout premier film, qu'on a exhumé grâce à TF1 qui a restauré le film en 4K. Donc ça va être une nouveauté. Le film n'a pas été vu depuis 50 ans, puisqu'il a été bloqué, les droits ont été bloqués par les producteurs à l'époque, et le film était invisible. Et là, on va être les premiers à rediffuser ce film. Et puis dans la liste des autres films sport et comédie, on a Le Vélo de Guylain Lambert, qu'on adore, puisque c'est un petit avant-goût du Tour de France, avec Benoît Poulvord en coureur cycliste, prêt à se doper pour gagner sa course cycliste.
Et puis, je disais aussi, des anniversaires de films cultes, de comédies cultes. On pense à Fantomas ou aux Gendarmes de Saint-Tropez, deux films qui vont fêter leurs 60 ans d'exploitation cette année.
C'est fou, ouais. C'est vrai que cette année, on fête les 60 ans du Gendarme de Saint-Tropez. Donc pour l'occasion, la fille de Michel Galabru viendra présenter le film et parler de son père, Michel Galabru. Et puis et également Fantomas, qui fête ses 60 ans. Donc c'est vrai que c'est des films pour nous qui sont cultes, et pareil, qui n'ont pas vieilli dans le sens où, voilà, dès que ça passe à la télé, ça cartonne. Mais de les revoir sur grand écran, je pense que peu de gens ont fait l'expérience, et ça mérite le détour. Parce que les gens connaissent les films par cœur, mais à la télé. Mais les voir sur un grand écran avec ce cinémascope magnifique, je pense que là, ils vont être éblouis par la qualité des images. Ils vont redécouvrir le film, en fait.
Alors, certains cinéphiles disent parfois que les films cultes, ce sont aussi des films qui ont eu une diffusion très restreinte, mais qui ont marqué les esprits. Les deux films présentés par Valérie Lemercier, qui va recevoir un prix ciné-comédie, rentrent pleinement dans cet esprit.
Oui, c'est alors Valérie Lemercier a accepté de venir présenter ses deux premières réalisations, donc Quadrille, qui est l'adaptation d'un film de Sacha Guitry, et puis son deuxième long métrage qui s'appelle Le Derrière, qui est un film très personnel, qui est formidable, très très drôle également, très fin, qui raconte beaucoup de la société et qui est même très en avance sur son temps, je trouve. Donc elle a accepté de venir présenter ces deux films et pour l'occasion, on a décidé de lui remettre notre premier prix Ciné-Comédie pour récompenser un artiste et son apport à l'art de la comédie lors de toute sa carrière. C'est une sorte d'Oscar d'honneur, en fait.
Justement, pour pallier un manque, parce que les Césars ne récompensent pas ou très très peu, je n'ai même pas le souvenir qu'on ait vu un César pour un film comique, pour pallier un manque, cette remise de prix ?
Oui, c'est pour pallier un manque, et puis parce qu'on a envie de dire à ces légendes de la comédie qu'on les aime, et puis c'est vrai que c'est un manque, puisque les Césars ou les Oscars récompensent rarement des comédies. C'est vrai qu'il faut remonter à Claude Zidi avec Les Ripoux, ou à Colin Serrault avec Trois hommes et un couffin, et ça, je parle de ça, c'est 84-85, donc ça fait 40 ans quasiment qu'il y a eu quelques comédies entre-temps, mais il y en a très peu.
Et pour terminer cet entretien, j'ai demandé à Jérémy Imbert comment il voulait faire évoluer le festival. C'est quoi l'ambition que vous voulez atteindre, le cap que vous voulez franchir ?
Bah, nous, dans l'idéal, on aimerait monter en puissance pour devenir le festival de comédie incontournable et où on peut accueillir aussi bien des stars hexagonales que des stars internationales. Mais pour ça, il faut des moyens. Pour l'instant, avec les moyens qu'on a, on peut pas pour l'instant espérer atteindre le niveau d'un festival comme Cannes, par exemple. Mais c'est normal. Cannes, c'est des millions d'euros. Ça se compte par millions. Nous, c'est beaucoup moins que ça. Je donnerai pas le chiffre, mais c'est beaucoup moins.
Le festival Comédie, c'est donc sur le territoire de Lens-Liévin, dans 5 communes du territoire, à Lens, Liévin, Avion, Arnes ou encore Vendin-le-Vieil, du 30 mai au 3 juin avec pour thématique sport et comédie. Plus d'infos sur ce festival et pour réserver votre place, direction le site internet festival-cinécomédie.com, festival-cinécomédie.com.
L'essentiel de la musique.
Radio Plus.
La Louche d'Or est de retour à Oisem le 1er mai, au programme de la musique et de la dégustation de soupe. Marie Duteuil, chargée des relations publiques et communication pour l'association Atacafa, nous en dit plus.
Donc la Louche d'Or, festival international de la soupe qui existe depuis bien 24 ans maintenant. Donc il y a un grand concours de soupe humoristique organisé par l'association Atacafa où donc sur une après-midi, il y a 40 festivaliers qui se réunissent autour de ce fameux concours de soupe. Et puis concours de soupe qui est aussi accompagné de concerts et de spectacles toute l'après-midi. Cette année, on a la chance d'avoir le Secours Populaire avec nous qui viendra pour faire une vente de bols et de tasses pour permettre aux festivaliers et aux festivalières d'avoir des contenants pour leur soupe, c'est toujours mieux. Et tous les profits sont reversés au Secours Populaire de l'Homme.
Et comment va se dérouler ce concours sur toute une journée ?
Alors, les faiseurs et les faiseuses de soupe sont invités à se présenter au niveau de la Maison Folie à partir de 13h pour finaliser leur inscription. Donc à cette inscription, eux nous donnent un petit échantillon de soupe et nous on leur redonne le numéro qui sera sur leur marmite et qui permettra de les identifier auprès du jury. Ils vont s'installer sur les stands, le décor, et puis à 15h, c'est l'ouverture des marmites, pas avant, parce que sinon il n'y en aura plus assez pour toute la soirée. C'est aussi le moment où démarrent les concerts, il y a deux scènes sur le festival, une qui est au niveau de la Maison Folie Oisem et l'autre qui est au niveau de la Place d'Oujda. Donc voilà, de 15h à 17h, il y a un jury qui passe entre ces différentes tables, qui va goûter, qui délibère, et à 18h, les prix sont remis, donc la louche d'argent, la louche de bronze et la louche d'or, évidemment.
Et qui est le jury cette année ?
Alors le jury, il est toujours composé de manière assez éclectique. Cette année, on a des Oisémois, des Oisémoises, des personnes qui viennent d'associations partenaires. Un petit peu tout le monde. On va aussi faire gagner des places à nos festivaliers pour venir faire partie du jury. Donc il faudra se tenir un petit peu informé quelques jours avant le festival.
Est-ce qu'on peut encore s'inscrire si on veut proposer notre soupe ?
Oui, bien sûr. Bah, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jour J du festival, donc jusqu'au 1er mai à 13h.
Est-ce que vous pouvez aussi un peu nous parler peut-être des autres soupes des années d'avant pour nous montrer un peu ce que c'est la Louche d'Or ? Par exemple, quelle soupe a été élue l'année dernière la Louche d'Or et peut-être aussi les deux autres places ?
Alors, la Louche d'Or, l'année dernière, c'était la concontante qui a été faite par Laura de la Cour et Cacan. C'était une soupe à base de concombre servie en plusieurs services, chaud, froid, avec des condiments, il me semble. En tout cas, elle a fait grande impression. La deuxième, ah là là, c'était, il me semble, Charlotte qui l'a gagnée. Je crois qu'elle s'appelait la Blue Lagoon et elle était à base de bleu et de poire. Donc, saveur toujours très originale. Et la dernière, c'était la aïe 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 de Alex, donc comme son nom l'indique, à base d'ail. Et il me semble que c'était ail fumé, ail rose et ail des ours.
Et est-ce que vous avez eu aussi des soupes un peu surprenantes, on va dire ?
Oui, c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, les soupes sont de plus en plus originales. On est loin de la soupe de butternut carotte que tout le monde connaît. Il y en a parfois qui sont des soupes de bonbons, des soupes à la rose aussi. Alors qui ça peut paraître très surprenant, mais c'est vraiment très très bon. Celle-ci, on l'a refaite et on l'a regoûtée.
Lors du festival, les soupes sont distribuées gratuitement pour que les festivaliers puissent les goûter.
Tout à fait, c'est très important pour nous que la soupe soit gratuite. Ça permet à tout à chacun de venir se nourrir gratuitement toute une après-midi sur Oisem.
Est-ce que vous avez un peu des indices sur les soupes qu'on va pouvoir goûter cette année, peut-être leur nom ?
Alors j'en ai vu quelques-unes passer puisqu'on suit les pré-inscriptions. Il y en a une qui s'appelle la je sais pas. Une personne qui était très inspirée. Et puis, alors qu'est-ce qu'on a aussi ? J'ai un petit trou. Alors il y en a vraiment énormément. Il y a des soupes qui indiquent l'origine du plat, des soupes mexicaines, des soupes qui viennent d'ailleurs. Oui, donc l'année dernière on avait eu la aïe 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 et cette année on a la zaï zaï zaï. Donc peut-être potentiellement avec de l'ail aussi. Et c'est vrai que, pareil, pour rester sur le thème de l'ail, le gagnant de la louche de bronze de l'année dernière, qui était venu avec donc la aïe aïe aïe, vient cette année avec la ouïouïouï. Donc on a hâte de voir ce que ça donne.
Et combien de participants sont inscrits pour l'instant ?
Alors il y en a une soixantaine pour le moment, on attend une centaine le jour J.
Il va aussi avoir d'autres activités comme des concerts, vous l'avez dit juste avant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui tout à fait, donc à l'image de la programmation Katakafa fait sur le reste de l'année, hein, puisqu'on ne fait pas que la Louche d'Or, on a toute une programmation de musique dite du monde, avec donc deux scènes, une à côté de la Maison Folie Oisem et une place d'Oujda. Cette année c'est Nalia, un groupe lillois mais qui est un groupe qui tourne autour des musiques des Balkans, un groupe assez festif qui ouvrira la scène. Et puis on aura Eda Diaz qui est plutôt sur des sonorités Amérique latine. Après, il y aura Moonlight Benjamin qui serait plutôt sur du vaudou blues rock, Lovana avec de l'afro électro malgache, Canyon Assos qui est aussi un groupe lillois du collectif La Cantina, et puis des spectacles tout l'après-midi au jardin des Sarrasins pour les petits, les grands. On a notamment un spectacle qui s'appelle Les Toqués où on permet aux plus jeunes de passer du marché à la cuisine, de faire comme si, de faire semblant. Enfin voilà, tout est toujours autour de la nourriture et des musiques dites du monde.
Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des personnes qui sont derrière ce festival, donc Atakafa, on peut parler des autres festivals que vous proposez et qui vous êtes ?
Voilà, donc Atakafa, qui est une association qui existe depuis 40 ans maintenant, qui a pour but premier de lutter contre l'ethnocentrisme par la mise en avant des musiques et des cultures dites du monde. Et donc pour ça, toute l'année, nous, on a une programmation qu'on dit nomade, puisqu'en fait, on a la particularité de ne pas avoir de salle. On va là où nos partenaires nous accueillent. Et donc, sur la saison, on a des concerts aussi bien au Grand Mix, au Grand Sud, dans les Maisons Folie Oisem, à la Gare Saint-Sauveur, à l'Opéra. Alors, voilà, on a des partenaires qui sont multiples et fructueux. Et puis, on a aussi un autre festival, alors là, qui vient de se terminer, qui s'appelle Le Temps d'une Lune, qui est un festival qui a lieu sur le mois du Ramadan, qui est un festival désacralisé, qui parle de culturel et pas de cultuel, en fait. On parle du mois du Ramadan comme un temps social, comme on pourrait parler de Noël, finalement.
Lors de la Louche d'Or, vous pouvez aussi assister à des concerts, comme par exemple celui d'Eda Diaz, et voici un extrait.
Nena, dime qué diferencia hay entre albas y crepúsculos.
Dime, dime, dime.
Ven y tal como no confundirlos. Nena, porque muchos...
Niña del puente, deje su mente, nacida para. saber que usted.
Le grand concours de la Louche d'Or revient le 1er mai. Il sera situé dans les rues et parcs jouxant la Maison Folie à Oisem. Les dégustations de soupe débuteront à 15h jusqu'à 22h. Il est toujours possible de s'inscrire pour participer au concours. Et si vous n'avez pas de soupe à présenter mais que vous voulez participer à l'événement, vous pouvez aussi devenir bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet lalouchedor.com. Ce reportage a été réalisé par Ella Delbar de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête t'as su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Radio Plus, on en fait plus pour vos oreilles que n'importe qui.
Sometimes late at night I lie awake and I watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day
she's my only one. And if my time on earth was through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made promise to myself, say each day how much he means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, does she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth went through, she must face this world without me. Gonna be enough to last if tomorrow never comes. So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.
Ma vie dedans toi. fait me retenir. J'ai méfiance en moi, l'un dans l'autre je le préfère. J'ai méfiance en moi, l'un dans l'autre je préfère. J'ai méfiance en moi, l'un dans l'autre je le préfère. J'ai méfiance en moi. J'ai méfiance en moi, l'un dans l'autre je préfère. J'ai méfiance en moi, l'un dans l'autre je préfère. J'ai méfiance en moi, l'un dans l'autre je préfère. J'ai méfiance en moi.
You packed your last two bags, the taxi's round the bend. You used to laugh out loud, but you can't remember.
Commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent.